franceinter.fr.
Marcel !
Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre.
Oh. Vite, trouvons un compartiment vide où je puisse vous embrasser tout le long du trajet.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. Comment consoler ce pauvre narrateur, petit garçon éploré, qui attend que l'élu de son cœur, Gilberte, daigne lui écrire une lettre ? Dans le deuxième volume d'À la recherche du temps perdu, Les jeunes filles en fleurs, la fille d'Odette et de Charles Swann n'épargne pas notre héros qui ne vit que pour aller jouer avec elle aux Champs-Élysées. Un jour, le narrateur décide de ne plus la voir, car Gilberte se serait moquée de lui. Il veut donc se prouver qu'il n'a plus besoin d'elle, tout en espérant bien sûr au fond de lui qu'elle lui fasse signe. Il se trouve donc dans une situation un peu compliquée, et surtout, il n'avait pas prévu que cela le plongerait en fait dans un tel état d'attente. Une attente synonyme de souffrance, comme d'extase. Nous allons le voir ce soir en compagnie de Nicolas Grimaldi, avec qui nous parlons d'amour depuis le début de cette semaine.
Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ».
Bonsoir Nicolas Grimaldi.
Bonsoir.
Vous avez sûrement reconnu le texte de Roland Barthes, un fragment d'un discours amoureux lu par Fabrice Lucchini. Barthes qui établit une équivalence entre l'amour et l'attente, une équivalence quasi totale, et une équivalence qui est en germe dans la recherche. Swann attend désespérément Odette, le narrateur attend Gilberte, attend Albertine. Il attend aussi la première attente du livre, hein, c'est celle du baiser de la mère au tout début de Du côté de chez Swann. Peut-on dire, Nicolas Grimaldi, que finalement l'attente chez Proust est le symptôme de l'amour ?
L'attente est la vie même de la conscience. Chez Proust, la conscience n'est qu'attente. Et il n'y aura qu'un seul moment. Or, l'attente est à elle-même son propre manque. L'attente est une sorte de carence. L'attente est attente d'une réalité à laquelle, une réalité dont nous supposons qu'elle a autant de consistance que nous en manquons. Ce qui fait que la réalité que nous attendons est une réalité qui ne laissait plus rien à attendre. Alors, le maléfice de l'attente, c'est que ce qui ne laisserait plus rien à attendre, on cesse d'en être conscient. Ça ressemble à la mort. Et c'est pourquoi ce qui ne laisse plus rien à attendre, c'est ce qui nous fait éprouver l'ennui.
Donc, il vaut mieux attendre.
Elle n'est pas là, je la désire. Elle est ici, je m'ennuie. Mais il est vrai que toute la recherche est construite sur une succession d'attentes, toutes plus obsédantes et angoissantes les unes que les autres.
Alors, vous avez établi une petite liste, je crois, de ces multiples attentes.
Vous l'avez parfaitement évoqué. Ce serait, je crains, après ce que vous avez annoncé, je craindrais que ce fût lassant pour nos auditeurs, ce serait long. Mais tout est attente, à tout moment. Or, l'attente est premièrement attente d'exister pour autrui, de façon à avoir dans autrui cette réalité dont je manque, dont je suis à moi-même mon propre manque. C'est ce que vous avez parfaitement illustré lors de notre rencontre d'hier, lorsque Proust évoque cette jeune fille sur le pont près de l'église de Carquevilly, où il se dit, si je pouvais pénétrer dans cet être, la fasciner, en être admiré, désiré, et qu'elle ne pensait plus désormais qu'à moi. Donc, j'aurai en elle la réalité dont je manque. deuxième figure de l'attente, c'est d'être initié à d'autres manières de vivre et de sentir dont ma propre vie, si j'ose dire, me prive. Et c'est ainsi que l'amour aura souvent chez Proust la fonction de nous faire pénétrer dans un autre monde, avec un autre rythme, avec d'autres points cardinaux, etc., etc., une autre musicalité. Par exemple, l'amour fugace de la petite jeune fille qui porte du lait le long du train. Ah, si elle m'aimait, elle me ferait connaître ce que c'est que d'aller vers la vache, que d'aller vers la ferme, d'avoir tel souci, tels espoirs. Bon. S'il est amoureux de Madame de Stermaria, c'est parce qu'il espère goûter sur elle la saveur de la Bretagne, de l'écume, des rochers. S'il est amoureux d'Albertine, c'est parce que son impertinence, sa liberté, l'insolence de ces jeunes filles sur la plage lui fait rêver d'une vie qui lui est interdite, etc. De même, rêve-t-il d'être introduit par la duchesse de Guermantes dans le monde aristocratique du... Bon. C'est l'attente.
Un été avec Proust, Nicolas Grimaldi, Laura El Maki.
Alors, je vous propose d'ouvrir le quatrième tome du livre de la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorre. Le narrateur vient juste de dîner chez les Guermantes. Il se dépêche de rentrer chez lui parce qu'Albertine doit le rejoindre. Et depuis qu'ils se sont rencontrés à Balbec, il ne se quitte plus. Donc le voilà chez lui, en attendant l'arrivée prochaine d'Albertine qui tarde à venir. Où peut-elle bien être? Pourquoi est-elle en retard? Qu'est-ce qui la retient? Voici notre héros figé dans sa chambre, se tenant près du téléphone, priant pour qu'il sonne.
De peur de ne pas l'entendre, je ne bougeais pas. Mon immobilité était telle que, pour la première fois depuis des mois, je remarquais le tic-tac de la pendule. Françoise vint arranger des choses. Elle causait avec moi. Mais je détestais sa conversation. Sous la continuité uniformément banale de laquelle mes sentiments changeaient de minute en minute, passant de la crainte à l'anxiété, de l'anxiété à la déception complète. Différent des paroles vaguement satisfaites que je me croyais obligé de lui adresser, je sentais mon visage si malheureux que je prétendis que je souffrais d'un rhumatisme pour expliquer le désaccord entre mon indifférence simulée et cette expression douloureuse. Puis je craignais que les paroles prononcées, d'ailleurs à mi-voix par Françoise, non à cause d'Albertine, car elle jugeait passer depuis longtemps l'heure de sa venue possible, risquassent de m'empêcher d'entendre l'appel sauveur qui ne viendrait plus. Enfin, Françoise alla se coucher. Je la renvoyai avec une rude douceur pour que le bruit qu'elle ferait en s'en allant ne couvrît pas celui du téléphone. Et je recommençai à écouter, à souffrir. Quand nous attendons, de l'oreille qui recueille les bruits à l'esprit qui les dépouille et les analyse, et de l'esprit au cœur à qui il transmet ses résultats, le double trajet est si rapide que nous ne pouvons même pas percevoir sa durée et qu'il semble que nous écoutions directement avec notre cœur. J'étais torturé par l'incessante reprise du désir toujours plus anxieux et jamais accompli d'un bruit d'appel. Arrivé au point culminant d'une ascension tourmentée dans les spirales de mon angoisse solitaire, du fond du Paris populeux et nocturne approché soudain de moi, à côté de ma bibliothèque, j'entendis tout à coup, mécanique et sublime, comme dans Tristan, l'écharpe agitée ou le chalumeau du pâtre, le bruit de toupie du téléphone. Je m'élançai. C'était Albertine.
Guillaume Gallienne nous lisait un extrait de Sodome et Gomorre. Alors ici, Nicolas Grimaldi, l'attente est vécue comme souffrance, elle est ressentie comme un manque à combler, et elle donne au narrateur la sensation du néant.
Oui, c'est très frappant dans la chute de ce texte, où mon attente était de plus en plus torturante et torturée, et me faisait éprouver un désir de plus en plus anxieux. L'attente, à mesure qu'elle se prolonge, et surtout si elle accorde du prix à ce qu'elle attend, devient une angoisse. Et l'angoisse est une torture, une douleur telle qu'on ne peut pas supporter qu'elle dure. Et c'est pourquoi l'angoisse, Proust ne cesse de dire, nos amours sont filles de nos angoisses. Comment peut-on vivre dans un monde où l'amour n'est suscité que par l'inquiétude, etc. Donc, c'est cette angoisse qui crée la douleur qui crée le besoin qui crée l'amour. Mais il va de soi que ce besoin est créé par l'absence, par la douleur, et qu'aussitôt que cette douleur cesse, l'imagination cesse aussi, et confrontée à la personne telle qu'en elle-même, on est ahuri de découvrir le néant qu'elle est pour nous. Je cite Proust.
Alors, pardonnez-moi cette parenthèse, mais moi j'ai un petit peu l'impression que toute cette attente est une fabuleuse perte de temps pour ce narrateur. C'est beaucoup de temps perdu quand même, d'attendre l'autre, d'être assis dans sa chambre, d'attendre que le téléphone sonne, de ne pas vivre à côté.
Vous avez tout à fait raison, et le narrateur vous donnerait encore plus vivement raison que moi. Car le narrateur a le sentiment véhément, douloureux, de perdre sa vie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, qui n'est pas son genre, et dont les plaisirs qu'il retire sont assez frelatés.
Swann le dit d'ailleurs, j'ai gâché ma vie pour Odette.
Tout à fait. Dans le cas de Swann, c'est dès le début qu'il savait qu'elle n'était pas son genre. Aussi souhaitait-il surtout ne jamais entrer chez elle pour n'avoir pas à lui demander ce qu'elle n'avait pas idée de lui refuser. Mais dans le cas du narrateur avec Albertine, ce qui le rend amoureux d'Albertine, c'est une seule fois qu'on vient de l'écrire, de l'avoir attendue en pensant qu'elle pouvait ne pas venir. Et cette anxiété qu'il a sentie lui fait éprouver comme un besoin de l'avoir à sa disposition constamment chez lui. Mais, comme vous le dites très justement, en l'ayant constamment à sa disposition chez lui, c'est elle qu'il a à sa disposition, il ne dispose plus de lui-même. Et par conséquent, il se prive de tous les plaisirs que la vie pourrait lui offrir. Aussi ne souhaite-t-il rien tant que le départ d'Albertine. Quand il l'évoque, ça lui devient insupportable. Si bien qu'au bout du compte, il décide, « Eh bien, je fais mes mal, je ne dis rien. » Lorsqu'elle s'éveillera, François lui dira, « Il est parti pour Venise. »
Et en fait, il se réveille, voilà. Elle est déjà partie.
Il s'éveille, François lui dit, « Albertine est partie. »
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle de la dernière attente, l'ultime. Elle a trait à une autre forme d'amour, peut-être, celui de la création, de l'art. L'attente ultime, c'est celle de l'œuvre à écrire.
Il y a trois sortes d'attente, trois figures principales de l'attente. La figure, l'attente de l'exotisme, attendre du nouveau, l'attente de la possession et l'attente d'une réalité incontestable et dense. Quelque chose qui ne laisserait plus rien à attendre. Et ce sera l'œuvre. Or, l'œuvre chez Proust aura pour fonction de nous faire retrouver, mais dans sa densité, dans son intensité, dans sa particularité la plus incontestable, tout ce que nous avions vécu sans le sentir, sans le voir. Pourquoi ? Sans cesse, l'attente nous avait détournés de la réalité du présent. Sans cesse, le souci que nous avions de l'avenir nous rendait inattentifs au présent. Et dans le souvenir involontaire, lorsqu'une même sensation se répète à des années d'intervalle, la plus récente fait ressurgir le monde ancien dans sa totalité, avec la totalité de nos sentiments, de nos impressions, de sorte que, pour la première fois, ce souvenir involontaire, peut-être mal nommé, nous rend présent à la réalité. Cette réalité n'est plus quelque chose qui s'annonce, quelque chose dont nous ne sentons que l'évocation, mais quelque chose qui nous est rendu dans sa plénitude, et pourquoi il dit dans son éternité. Et tel est ce que l'auteur attend de l'œuvre, le réel retrouvé. Ce réel auprès duquel nous avions vécu, mais où nous n'avions pas pénétré.
Merci beaucoup, Nicolas Grimaldi.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous retrouve demain pour parler de la jalousie dans la recherche, un thème que vous avez étudié de près dans deux ouvrages publiés aux presses universitaires de France. Essai sur la jalousie, l'enfer proustien et les horreurs de l'amour chez Proust. En attendant, je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceinter.fr, rubrique Un été avec Proust, pour retrouver les références des textes cités à l'antenne ce soir. Bonne soirée et à demain.
Je n'ai pas le temps.